Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'association Aspasie, basée à Genève, défend les droits des travailleuses et travailleurs du sexe dans ce canton, les informe de leurs droits et devoirs, et nous aussi au passage. Sur le site, on y apprend donc qu'en Suisse, l'exercice de la prostitution est légal, que deux personnes majeures et consentantes peuvent échanger librement un service sexuel contre une rémunération, à condition que la personne prostituée exerce cette activité de manière indépendante et sans pression ou contrainte de la part d'autrui. Le travail du sexe, poursuit le site, est une activité lucrative tolérée en regard du principe de la liberté économique. C'est à cette liberté économique que nous nous intéressons aujourd'hui en rencontrant deux femmes entrepreneurs qui ont décidé de créer des start-up liées au commerce du sexe. La première est directrice d'une agence d'escorte en ligne, la seconde a créé un service de sécurité pour les personnes prostituées. Comme des sociétés qui auraient créé des plateformes pour proposer des services de mannequins, de livreurs de pizza, de masseurs, d'extras, d'agents de sécurité ou de monteurs vidéo, les agences d'escorte sont en Suisse enregistrées, encadrées par une réglementation précise, incluse dans la loi sur la prostitution du 17 décembre 2009. Les TDS, travailleurs du sexe, ont également des droits définis par la même loi. Ils sont ou elles sont traités dignement, les pratiques sont réglementées et leurs activités strictement légiférées, enfin autant que faire se peut. Par contre, sur le plan économique, leur travail reste soumis, comme les autres activités, à la dure loi du marché, l'offre et la demande. Les personnes prostituées reversent un pourcentage de leurs gains à l'agence, comme dans 10%, sauf que c'est 35%, mais elles restent des travailleuses indépendantes, précaires, soumises à une grande flexibilité, comme un chauffeur Uber ou un coursier à vélo, sans aucune sécurité de l'emploi, sans congés payés, parentaux ou avantages sociaux. Leur bien-être est entretenu dans le but de générer du profit pour elles et pour leur agence. Ceci étant donc précisé, tout de suite, la Suisse aussi est une start-up. Ce sont deux histoires d'empowerment et d'entrepreneurship racontées par Pauline Verdusier.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Leïla, je travaille à Genève. Alors, j'avais une vie comme tout le monde, j'avais un travail comme tout le monde. Et puis, j'ai eu une grande tristesse amoureuse. Et comme j'avais de la peine à oublier cet homme, j'ai essayé de m'inscrire sur des sites de rencontres pour éventuellement oublier cet amour. Mais j'arrivais pas. J'ai rencontré que des personnes qui me faisaient des sales tours ou des personnes peu intéressantes. Et un jour, en discutant avec une de mes amies, qui elle avait déjà passé 50 ans, et qui m'a dit, si j'avais ton âge, j'aurais essayé. Je me suis dit, pourquoi je me ferais pas payer? J'avais en tête de faire l'escorte pour me changer les idées. Donc j'ai décidé d'aller voir sur Internet, et puis j'ai choisi 3 noms, donc les mieux répertoriés sur Internet, qui correspondaient à des agences ou des lieux où on pouvait faire de l'escorting. Et c'est parti, un mercredi après-midi, je suis partie à la grande ville, à Genève, et je suis allée voir les 3 personnes qui tenaient ces établissements. Je suis arrivée en premier dans le salon. Un salon, c'est géré par une personne. C'est un endroit où les filles attendent les clients, elles ont des prestations à la carte, et les clients choisissent ce qu'ils ont envie, comme un menu. C'est clair, c'est de la prostitution, comme l'escorting. Mais moi, je me voyais pas attendre toute la journée en sous-vêtements un client qui allait me choisir parmi d'autres, avec qui j'allais passer 20 minutes, 40 minutes, une heure, je ne sais pas. C'était pas ça que je voulais, c'était pas ça que je voyais. J'ai remercié la personne qui m'avait reçue et je suis partie aller voir le gérant de Lady Escort, qui était une agence avec un très beau site. Le monsieur m'a reçu, j'ai discuté avec et je lui ai dit que j'allais réfléchir à sa proposition et je suis allée voir l'agence Élégance et Rebelote, aussi quelqu'un de très correct. J'ai dit je vais réfléchir à sa proposition. Et 24 heures plus tard, j'ai décidé de collaborer à l'agence Élégance N'ayant aucune expérience dans le domaine, j'avais les yeux tout ronds et l'envie de faire plein d'expériences sympas. Je lui ai posé la question, mais on travaille combien de fois dans le mois, etc. Il m'a dit, ça dépend de vos disponibilités. Il y a des personnes qui peuvent travailler tous les jours. Il y a des personnes qui peuvent travailler quelques fois par semaine, d'autres selon leur disponibilité. Moi, j'avais un job à côté. J'étais spécialiste dans le marketing. Et puis, j'avais des horaires de bureau. C'était pas forcément toujours évident de se libérer. Donc, j'ai pris cette activité comme une fenêtre ouverte sur un esprit ouvert, sur l'envie de vivre quelque chose de différent dans ma vie. Mais voilà, donc j'ai commencé mon aventure à l'agence Élégance. Je me préparais comme une princesse pour aller à un rendez-vous privé. Et ça m'a vraiment donné goût de continuer parce que j'étais attendue, on s'occupait de moi, je pouvais discuter de la vie, des choses politiques, des choses culturelles. Et ça m'a beaucoup plu. Et pas beaucoup de temps après que j'ai commencé, je me suis dit, mais... tu sais bien organiser, tu as fait des études, une grande école hôtelière avant, tu es quelqu'un d'assez visionnaire. Pourquoi tu gérerais pas, toi, une agence d'escorte ? Après quelques temps, j'ai décidé d'arrêter de travailler à l'agence Élégance. J'ai aussi contacté un webmaster et j'ai monté ma première agence qui s'appelle Elle comme le magazine. Je suis partie vraiment de zéro. J'ai mis des annonces pour savoir qui était intéressé de devenir escorte. Je l'ai fait exactement comme dans le monde professionnel. J'ai fait des entretiens dans les salles de conférence d'hôtels à Genève. D'abord, il y a un dossier qui doit être envoyé. Il y a des photos. J'ai horreur des photos qui sont trop modifiées avec des programmes parce que je trouve déjà que c'est un manque de respect. Il faut que je puisse me rendre compte de la personne. Si la personne correspond à ce que je recherche, je l'invite à venir me rencontrer et on se rencontre à Genève. Et puis, à travers l'entretien, j'arrive à sentir l'énergie de la personne. J'arrive à savoir à qui j'ai affaire. Si ça correspond bien, eh bien là, on organise les premiers pas. Organiser les débuts, en fait, avec une fille, c'est se prendre plusieurs semaines à l'avance. C'est de planifier soit un séjour sur Genève, ou bien si la personne se trouve déjà là, c'est de planifier trois choses indispensables pour pouvoir commencer, c'est-à-dire participer à une réunion d'Aspasie, qui est une association de protection pour la prostitution. Elles doivent participer à ce cours pendant 2 heures, elles reçoivent un petit papier, et grâce à ça, après, on peut s'enregistrer à la police des mœurs, donc on leur fait un permis. Sans cette base, il n'y a pas de travail. C'est compliqué en Suisse, mais au moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est contrôlé. On ne fait pas n'importe quoi. Et bien sûr, en parallèle, pour éviter de perdre du temps, eh bien, on fait une séance photo avec un photographe. Après, quand 6 éléments sont réunis, moi, je peux mettre la fille en ligne et puis on peut commencer à travailler. Quand ils viennent chez moi, ils ont envie de rencontrer une fille qui est jolie, qui sache se tenir, qui peut discuter de telle ou telle chose. J'aime les personnes spontanées. C'est vraiment un tout. La belle fille qui a de l'esprit, qui est sympa, qui a de l'humour, qui présente bien, qui fait rêver, qui a des beaux sous-vêtements, un beau corps. Et puis après, bien sûr, sur le plan privé, ils la veulent aussi, bien sûr, libérer. Je suis comme une agence de mannequins, j'ai un type de physique qui est apprécié. Chez moi, c'est clair qu'on a un physique plutôt photomodèle, de mannequin. On aime les longues et fines. Les filles qui ont des kilos en trop, malheureusement, ça va pas aller. Pas tout le monde peut être mannequin chez Chanel non plus. Après, lorsque je vois que la fille est très chouette, mais par exemple, a peut-être un peu trop de poids, je dis, si tu as envie de travailler avec moi, il va falloir perdre un petit peu de poids et faire en parallèle du sport pour pouvoir mincir, te tonifier. Parce que ça sert à rien que je mette quelqu'un sur un site s'il ne correspond pas à des critères de sélection de mes clients. Je n'ai pas de plante verte sur mon site et je n'ai pas envie de faire souffrir une fille à ne pas avoir de demande. Parce qu'il n'y a rien de pire que de refuser une personne lors d'un casting qui a pris le train ou l'avion pour venir vous voir. Et puis, je sais que ça lui brise le cœur, mais d'un autre côté, elles savent ce que j'attends. Donc, si vous arrivez avec un pied qui boite, ça ne va pas matcher. Je suis toujours à la recherche des plus belles filles de Suisse et d'Europe. Ces filles, des fois, n'ont pas beaucoup d'expérience ou n'en ont pas du tout. Mais quand elles en ont pas et puis qu'elles débutent, eh ben c'est là que vous êtes très utile parce que vous pouvez leur apprendre les bases. Que voilà, l'aspect esthétique est très important, que même déjà avec un petit budget, on peut être élégante. Ce budget, c'est important de l'utiliser si vous voulez travailler chez moi parce que vous ne pouvez pas être une escorte de luxe en vous habillant comme une manante. Quelques mois plus tard, j'ai racheté l'agence Lady Escort que j'étais allée voir pour éventuellement travailler. J'ai mis elle et Lady Escort ensemble. Pour moi, c'était agrandir une structure qui était toute nouvelle sur un marché qui était déjà bien établi. Et d'arriver comme ça, toute fraîche, c'est assez risqué parce que la porte de sortie peut vite se présenter. Donc voilà, j'ai elle et Lady Escort. C'est un métier très fatigant. Donc le patron de l'agence Élégance était fatigué. Il m'a dit, écoute, si j'ai une personne à qui j'ai envie de vendre cette agence, c'est à toi. Parce que j'ai confiance en toi et tu as toujours été une personne très correcte. Alors j'ai fait un plan pour pouvoir acheter cette agence. Je touche du bois et je remercie le bon Dieu parce que pour moi, c'était la chance de ma vie. Et puis, c'est devenu mon métier. Pour être manager, c'est comme chez McDonald's. Vous devez avoir fait les frites, la caisse, vous savez ce que c'est de nettoyer le sol, les toilettes, vous savez ce que c'est d'avoir l'expérience. Chez McDo, vous n'êtes pas manager si vous n'avez pas été équipier avant. Pour une agence d'escorte, c'est la même chose. On connaît comment certaines personnes pourraient se comporter, on connaît les techniques de vol. Quand vous avez de l'expérience, vous savez déjà comment identifier ce genre de choses. Vous êtes un peu la maman des filles. L'expérience que j'ai eue, moi, parce que j'ai vécu cette chose, fait que j'ai les yeux et j'ai l'expérience et j'ai envie de le transmettre. Cette activité m'a tellement touchée et m'a tellement apporté. Vous allez me dire, mais c'est de la prostitution, comment ça peut vous apporter autant? Mais j'étais pas dans la rue, j'étais pas devant une coupe de champagne, j'étais pas à attendre un client ou bien à attendre qu'il me dise qu'est-ce qu'il a envie sur son menu. Non, c'était moi qui choisissais si j'étais d'accord ou pas de prendre un rendez-vous. C'était moi qui allais rencontrer le client et je passais des moments super. Et ça m'a tellement apporté au fond de mon cœur que j'avais envie d'apporter aux femmes la même chose que ça m'a apporté à moi. Parce que j'ai appris à mieux me connaître, découvrir mon corps, mieux connaître ma sexualité, apprendre à m'habiller, savoir se faire désirer. Je suis devenue vraiment une femme très féminine et c'est quelque chose qui a été très bénéfique pour moi. Et j'avais envie de l'offrir aux femmes, mais toujours d'une manière très sécurisée et correcte. Parce que je travaille avec des ladies et je leur présente des gentlemen. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'aime toujours autant mon métier. Je ne force personne à travailler. Je propose du job et les filles, elles acceptent ou elles n'acceptent pas. On n'est pas des maquerelles. On est des directrices d'agence. Dans mon pays, cette activité est autorisée. Et dans mon agence, les clients que je ne veux pas, je ne les prends pas. Lorsque vous gérez l'agence, vous êtes une barrière face à certains désirs exprimés, des fois un peu sans limite. C'est très difficile d'être une escorte indépendante parce que les clients pensent qu'ils parlent des fois à un morceau de viande, ils n'ont aucun respect. Mais dans une agence, ils ne vont pas me parler crûment. Ils auront quand même les mots, des fois sont même gênés de me dire, mais voilà. Ceci se passe toujours avec beaucoup de politesse et d'élégance et nous, on leur organise pico bello le rendez-vous. Et ça arrange aussi les filles parce que elles n'ont plus qu'à cueillir le rendez-vous, elles n'ont plus qu'à prendre le numéro de chambre, elles savent à quelle heure aller et elles se présentent à l'heure indiquée avec le dress code qui est demandé ou l'élégance qui est obligée. J'ai rarement eu des filles qui se plaignaient de mes clients. Et si tout d'un coup ça devait arriver, je vois la chose avec le client et généralement je ne continue pas avec lui. Et j'ai pas envie qu'on humilie les filles, j'ai pas envie qu'on leur prenne une demi-heure et puis qu'on les paye pas. Ça, j'aime pas. J'ai rencontré ce métier à un moment de ma vie où je pensais pas que je le ferais. J'ai surtout construit cette agence parce que j'ai l'amour pour cette activité. J'ai été transformée aussi par cette activité. Je me sens aujourd'hui comme porteuse d'un flambeau. Et généralement, quand je prends une fille à l'agence et que c'est une débutante, si vous les rencontrez 6 mois plus tard, eh bien, elles ont totalement changé. Elles sont plus élégantes, elles sont plus raffinées, elles sont devenues des princesses, mais des princesses avec les pieds sur terre. C'est clair que certaines, des fois, quand elles décollent un peu, je suis obligée de les reconnecter avec le sol. Et ayant été un garçon manqué dans le passé, j'ai pas été élevée avec une robe rose et puis des tutus de ballerine. Donc j'ai joué avec mes copains et mes copines dans la rue. Je grimpais aux arbres, j'aimais gratter le sol pour chercher des vers de terre. Je suis toujours un garçon manqué, un peu princesse. Parce que même si je suis en survette et puis non maquillée, j'aurai toujours les ongles faits et le reste sera toujours impeccable. Voilà. Lorsque vous sortez avec un homme et puis qui sait que vous avez une agence d'escorte, vous êtes toujours un petit peu le grain de curiosité. C'est-à-dire que, ah oui, il aime bien savoir comment ça se passe dans une agence, qui travaille dans l'agence, etc. Même les amis, hein, ils aiment bien connaître les histoires un peu burlesques. Et puis, les hommes avec qui j'ai été, certains, d'abord, ils me disent non, ça cause pas de problème. Mais on voit qu'ils se méfient quand même, ils se posent des questions si je suis vraiment clean au fond de moi-même, même si j'ai fait des tests, etc. Ils ont toujours cette crainte lors de la sexualité qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un a eu quand même de la peine à accepter mon activité parce qu'il voyait que mon business fonctionnait, donc ça le rendait un peu jaloux parce que lui-même avait un business. Et puis il essayait de m'imposer certaines règles que plus jamais aujourd'hui j'accepterai. À 10 heures, tu réponds plus au téléphone. Et quand on est amoureuse d'une personne, des fois, ben, on se dit, oh, moi, j'ai pas envie de le perdre, donc je fais. Mais plus jamais de ma vie, je fais des choses comme ça. L'homme qui m'aime, ben, il m'aime avec mon métier, comme moi, j'aime comme il est. Aujourd'hui, je vis une vie de couple heureuse. J'ai la chance d'avoir un partenaire qui accepte mon travail, qui le prend comme un travail normal, même s'il me prend beaucoup de temps. Je le respecte, il me respecte aussi comme une femme. Il n'a pas d'idées mal pensées par rapport à mon activité d'avant ou celle que je gère aujourd'hui. Il m'aime pour la personne que je suis moi, comme moi je l'aime pour la personne qu'il est lui.
Je m'appelle Eva, j'ai bientôt 43 ans. J'étais dans le militaire et j'ai travaillé beaucoup dans des centres de commande où on gérait des missions, on manageait les avions et puis on dispatchait les mécanos s'il y avait besoin. On gérait beaucoup la logistique et la sécurité des équipages. Alors moi, j'ai toujours été garçon manqué. Je me suis toujours retrouvée plutôt à grimper les arbres que jouer avec des poupées Barbie. Et j'aimais beaucoup ce métier-là. Il y avait un esprit d'équipe que je trouvais absolument incroyable, qui est très difficile à retrouver dans le civil. Alors ça me plaisait absolument. C'était complètement mon style d'entourage. Les moyens de préserver les missions, de les garder secrètes. Donc la discrétion, c'est quelque chose que je connais très bien. Et puis les protocoles de sécurité aussi. Mais au bout d'un moment, j'ai réalisé que ça n'était pas le style de vie que je voulais mener. Et ils ont donné une opportunité de rentrer en France. Alors j'ai sauté dessus parce que ça tombait au bon moment pour moi. J'ai cherché du travail ailleurs, mais j'ai pas forcément trouvé quelque chose qui m'intéressait plus que ça. J'ai travaillé dans un hôtel 4 étoiles, j'ai fait réception, femme de ménage, plein de différents petits emplois et rien ne m'intéressait franchement. J'étais assez ouverte au niveau sexuel, je suis rentrée dans le libertinage, je suis aussi rentrée dans le BDSM et en passant dans les soirées, on me proposait de l'argent. Alors que j'étais pas du tout là pour ça, mais à force d'avoir des gens qui me proposaient de l'argent, je me suis dit mais... pourquoi je refuse cet argent? Autant allier plaisir avec de l'argent, tant qu'à faire. Alors, j'ai travaillé dans un bar une fois et il y avait un très beau gentleman sur lequel je bavais pendant des heures. Au bout d'un petit moment, il m'a demandé si je savais où trouver des escortes. Et comme je suis un peu opportuniste, j'ai dit, bah, moi, je le fais. Alors que c'était pas du tout vrai sur le moment. Mais j'ai juste sauté dessus parce qu'il était beau, quoi. C'était la première fois. Ça m'a bien fait rigoler parce que je l'aurais fait gratuitement, mais bon, je me suis dit, c'est dingue, ce métier, ça pourrait vraiment m'aller. À l'époque, j'avais 30 ans quand je suis sortie du militaire. J'ai toujours aimé mon métier, mais il y a un élément de risque qui, dans le civil qui n'est plus du tout là. Et quelque part, en tant qu'escorte, il y avait une excitation de ne pas savoir à qui j'ouvrais la porte. Un petit coup d'adrénaline qui me plaisait bien, justement. J'étais à Paris à ce moment-là. Je n'ai pas voulu le faire dans un pays qui ne tolérait pas bien le métier d'escorte. Et j'ai préféré regarder dans les pays où c'est légal, on peut payer ses impôts, on peut avoir une retraite, on peut être assuré au niveau de sécurité sociale. Et du coup, j'ai choisi la Suisse. En arrivant en Suisse, je n'étais pas sûre de comment procéder. Donc, je suis allée voir les maisons closes. Et j'ai vite compris que ce type d'environnement n'était pas fait pour moi. Que j'étais plus du style d'escorte indépendante. Alors, au départ, j'ai entendu parler à travers plusieurs escortes qu'il y avait plusieurs personnes qui font un métier de cambrioler les escortes indépendantes parce qu'elles n'ont personne autour pour la sécurité. J'ai aussi eu quelqu'un qui a prétendu être soumis et en fait, à un moment, il m'a retourné, mis sur le dos et puis il m'a mis la main à la gorge. Une fois qu'on est entraîné à un certain niveau, on a des tendances à réagir par réflexe et il s'est retrouvé par terre. Et en plus, il y a eu une escorte qui a été tuée en Suisse aussi récemment. Du coup, j'ai commencé à prendre des cours de défense. Je me suis renseignée auprès de la police, qu'est-ce que je peux faire pour prévenir ce genre de choses. Et j'ai commencé à parler avec des autres indépendantes pour voir comment elles se positionnaient par rapport à certains clients. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un manque de sécurité et un manque d'entraide. Parce que effectivement, en Suisse, on a le droit d'aller voir la police, on a le droit de les appeler, ils viennent nous protéger. Sauf que si on est ligoté et que on n'a pas le téléphone en main, il y a un problème. Et ce petit lien là qui est entre l'escorte indépendante et la police, c'est ça que je veux remplir. Je viens d'ouvrir une boîte qui se base sur en gros, la location d'appartements pour les escortes avec des services qui sont pensés pour la sécurité des escortes. Au départ, j'avais commencé par juste avoir un soutien avec des filles que je connaissais, qui veillaient sur moi, par exemple, qui juste m'appelaient pour vérifier que tout allait bien à la fin du rendez-vous. Et puis, ça a été d'installer des caméras, de travailler avec des autres personnes qui voulaient bien, par exemple, vérifier que la personne qui se pointait au rendez-vous, c'était une personne et pas cinq avec des battes de baseball. J'en parlais avec des autres escortes que je connaissais. Je leur proposais de l'aide. Je me suis rendu compte que déjà, juste, on a beaucoup moins peur d'ouvrir la porte. Parce qu'on sait que si quelque chose dérape, quelqu'un est en train de veiller sur nous. Et ça m'a juste paru logique d'en faire un business. J'essaye de travailler avec des propriétaires qui voudraient bien louer leur appartement à des filles qui travaillent dans le métier de travailleuses du sexe. S'ils sont d'accord, j'équipe l'appartement pour que ce soit sécurisé. J'avais trouvé des boutons de panique sur Internet qui étaient reliés à un téléphone, qui pouvaient envoyer une localisation, qui pouvaient envoyer un message d'alerte à des numéros préprogrammés. Je faisais ça avec mes amis escortes indépendantes. Et j'ai décidé d'incorporer ce genre de système dans le protocole de sécurité que j'ai mis en place. Et ça, j'en ai mis un peu partout dans les appartements. C'est des boutons connectés. Alors, on peut les mettre près de toutes les portes, sur la table de chevet. On peut les porter en tant que bijoux aussi. On peut en faire un collier, si on veut, ou une bague. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Et il y a des systèmes de judas numérique qui prennent une photo de la personne, qui sera utilisée uniquement s'il y a eu une agression. Donc tous les services que je propose tournent autour en particulier de la sécurité. Ensuite, j'ai des autres services que je propose qui peuvent leur être utiles pour leur métier et pour la vie en général. par exemple. Je donne des leçons de défense, des leçons d'anglais, des leçons de français, manucure, pédicure. J'ai tout un petit poste de massage chez moi avec les chaises massantes. Alors, si jamais elles ont besoin de se détendre, elles sont bienvenues pour profiter de ça aussi. Je donne aussi des cours d'informatique. Je suis assez douée en informatique. Ou bien si elles veulent monter un site web, je peux les aider avec ce genre de choses-là. J'aimerais aussi faire en sorte que j'ai une liste d'escortes indépendantes, que si jamais moi j'entends parler d'un numéro qui est en train de prendre des rendez-vous et qui fait des cambriolages ou une agression envers une fille, de lancer un message d'alerte à toutes les filles que je connais pour qu'elles soient au courant de ne pas prendre des rendez-vous de ce numéro-là en particulier. Je suis quelqu'un qui connaît ce métier et qui n'a absolument aucun a priori envers elle. Un petit peu un ange gardien. Je me considère comme... Enfin, c'est un peu ça que j'aimerais devenir, c'est un peu leur ange gardien. Je jongle entre gérante de boîte et c'est énormément de travail, et entre escorte indépendante. Je continue d'exercer et je pense que tant que les gens veulent bien me payer, je continuerai d'exercer. Alors, les clients, je leur dis que j'étais hôtesse de l'air et que j'ai voyagé énormément et que j'ai travaillé avec des militaires un peu partout dans le monde. Et puis hôtesse de l'air, ça reste un fantasme, alors tant qu'à faire. Je préfère rester hôtesse de l'air et m'envoyer en l'air que de révéler que j'ai des gros bras. Je trouve que les escortes sont des femmes très fortes. Souvent, elles viennent de situations improbables ou très difficiles. Et ce sont des femmes qui se battent pour survivre. Ce sont des femmes qui ont une très bonne compréhension de la nature des hommes et qui ont vraiment les pieds sur terre par rapport à beaucoup de choses. Et j'admire énormément ces femmes. Je suis très très indépendante et pour moi d'être avec quelqu'un, alors ça reste assez inintéressant. Je préfère papillonner. Je me perçois plutôt comme une libertine à vie. Bon, ensuite, si on tombe amoureux, tout ce que je viens de dire ne reste plus d'actualité. Je préfère mon métier d'aujourd'hui sans une hésitation. Parce que ça reste fun, c'est moi qui décide quand je travaille, c'est moi qui décide si j'accepte un client. Je suis très joueuse par nature et ça me permet d'être plus moi que je l'étais en mode carré, mission, ce qui est très bien aussi, mais je m'amuse beaucoup plus aujourd'hui.
Directrice d'agence d'escorte, un reportage de Pauline Verdusier réalisé par Anne-Laure Chanel. L'attachée de production, c'est Aurélie Marsay. Merci à Leïla et à Eva, ainsi qu'à l'association de soutien des travailleurs et travailleuses du sexe, l'ASPASI à Genève.